Bonjour à chacun ce dimanche. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre dans la première Corinthiens. Ça ne surprendra sans doute personne puisque nous continuons notre série et comme le partageait David Doyen, pasteur un de nos pasteurs à Auvelay, lors du webinaire il y a 3 semaines, je crois, sur la santé de l'Église, il disait qu'il est bon de faire des séries et de suivre pour avoir le contexte. Et c'est vrai que quand nous prenons ce qui nous plaît, et il disait lui-même, je ne prêcherai jamais sur certains sujets, parce que c'est moins évident, ou parce que c'est plus difficile. Et je dois dire que je n'aurais pas choisi, moi, ce passage que nous étudions aujourd'hui. Donc je suis en phase avec lui, et je pense qu'il faudra que nous nous accrochions, parce que c'est à la fois très peu de versets, et un passage quand même qui balaye pas mal de choses. Alors prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons l'examiner avec respect. Et nous te demandons aussi de libérer nos esprits de ce que nous devons laisser au dehors pour que nous puissions nous plonger dans cette parole qui est toujours utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous convaincre, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée. En ton nom, amen. J'espère que vous avez, pour ceux qui se sont réunis ce dernier jeudi, vous avez joui de la communion fraternelle et dans le partage, que vous avez mis de la chair sur les relations fraternelles, c'est important, et cela fait le plus grand bien, et aussi nous recevons et nous partageons aussi des enseignements. Alors le passage qui nous intéresse aujourd'hui, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 16. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Et si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, et la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci, à son tour, naît de la femme, et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez vous-même de cela. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu la tête découverte? ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des Églises de Dieu. Vous avez compris mon préliminaire. Faisons comme dans la voiture, attachons nos ceintures. Au milieu du matraquage actuel des déviances concernant le genre et la sexualité ambiguë mises à l'avant-plan dans la société aujourd'hui, je me suis furtivement posé la question si je pouvais m'imaginer être autrement que je le suis sur ce plan. Question que je ne me suis jamais posée, étrange, mais étant donné le sujet, il est évident que ma réponse est définitivement négative. La Bible n'est pas silencieuse sur ce que signifient les genres homme ou femme, et la Bible nous enseigne des choses essentielles à cet égard. Et dans notre monde déchu, nous pouvons très bien avoir des femmes dominatrices qui usent du pouvoir, comme je me souviens d'une administratrice générale à l'administration centrale de la TVA, ici, dans la tour des finances où j'ai travaillé dans les années 80, et qui me disait, non sans un certain plaisir, « On fait avec vous ce qu'on veut. » Sous-entendu, on met le personnel des services là où est notre bon plaisir. Et c'était effectivement bien le cas. Heureusement, il y avait au-dessus d'elle un chef dont elle ne soupçonnait pas l'existence et qui était le mien depuis ma conversion. Cela ne signifie pas que nos circonstances de vie soient toujours à notre goût, agréables ou faciles, mais nous savons que nous avons placé notre foi en un bon maître. Pour illustrer un peu plus légèrement un certain regard sur la société des hommes et des femmes, je lisais il y a quelques années déjà, lorsque l'automobile n'avait pas mauvaise presse, un article d'une journaliste dans ce qui était encore à l'époque la page automobile du Vif l'Express, et où cette dame étalait son regard critique sur tous ces hommes frustrés ou machos qui roulent en 4x4, ou les SUV, comme on les appelle aujourd'hui. Et je dois bien dire qu'aujourd'hui, avoir le nombre de conductrices de ce genre de véhicules, il doit bien y avoir un esprit de revanche ou de supériorité, bien dans l'esprit du temps. A-t-on inversé les rôles, ou du moins équilibré les rôles ? La réponse sur ce plan particulier importe très peu. Et je cite à cet égard John MacArthur, qui écrit « La question du rôle de la femme est devenue un véritable champ de bataille dans notre société » durant les quelques dernières décennies. La lutte pour la reconnaissance des droits de la femme a créé une condition de déséquilibre qui menace l'avenir. Les efforts de l'ennemi ont commencé dans la société séculière et ont pénétré l'Église, qui attrape si souvent les maladies du monde et adopte l'esprit du siècle présent. La grande question réside pour l'Église dans ce que certains considèrent que Paul et les autres écrivains bibliques ont mêlé à la révélation biblique des options personnelles, des opinions personnelles. la surpondération des aspects inhérents à la culture viennent aussi altérer un message biblique qu'il devient difficile pour les contestataires. C'est d'ailleurs le cas, puisque l'apôtre en parle à la fin de notre section des contestataires, qu'il leur est difficile d'admettre sobrement ce que Dieu veut nous dire pour aujourd'hui et pour demain. Et oserais-je dire, pour notre bonheur et notre équilibre. Quoi qu'en pense le monde autour de nous, l'Union européenne et ses valeurs, la démocratie, est-ce encore le cas, la défense des minorités, des LGBTQ+, mais revenons à notre propos de ce jour. Pour amener un raisonnement à notre goût, il est inévitable de nous faire juge de la parole révélée de Dieu, et vous conviendrez que là n'est pas notre rôle. Malgré tous leurs défauts, les Corinthiens étaient désireux de retenir les enseignements de Paul, puisque l'apôtre, effectivement, malgré leur mauvaise réputation, dit à ces chrétiens de Corinthe, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Et c'est pourquoi je me suis efforcé tout particulièrement pour ce sujet sensible à rester au plus près des exégètes évangéliques reconnus afin de faire ressortir avec sobriété l'essentiel de notre passage de ce matin. Comme dans les chapitres précédents de 1 Corinthiens que nous méditons depuis quelque temps, Paul répond aux questions qui ont été posées, qui lui ont été posées, et ici, c'est bien la question de la soumission des femmes. Je veux cependant que vous sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, et la tête du Christ, c'est Dieu, 1 Corinthiens 11, 3 de notre section. Le mot grec est « képhalé », tête, et il a fait couler beaucoup d'encre parmi les théologiens, tant Kevin DeYoung que Florent Varac aussi, évoquent ce questionnement « faut-il traduire par « autorité sûre » ou bien « source » tout comme la tête d'une rivière est sa source. Est-ce que cela voudrait encore dire « prééminent » On peut considérer que cela a à voir avec la question de l'autorité. Les théologiens Ciampa et Rosner expliquent cela de la façon suivante. Même si avec le mot « tête », Paul veut dire « le partenaire le plus proéminent ou prééminent », ou ce qui est moins probable, celui à travers qui l'autre existe, son langage et la progression de l'argumentation semblent refléter une hiérarchie présupposée à travers laquelle la gloire et la honte affluent vers le haut. De ceux au statut inférieur vers ceux se situant au-dessus d'eux. Dans ce contexte, le terme se réfère presque certainement à l'idée de quelqu'un ayant autorité sur un autre. Fin de citation. C'est d'ailleurs le même mot que Paul utilise en Éphésiens, au chapitre 1er, dans les versets 20 à 22, en parlant de Christ. Trois petits points. Que Dieu a mis sous ses pieds et que Dieu a donné Christ comme tête, c'est le même mot, képhalé, en grec, au-dessus de tout. Cela se rapporte à l'autorité de Christ sur l'Église et pas uniquement que l'Église trouve son origine en lui. Au chapitre 5 d'Éphésiens, Paul réitère son enseignement que les épouses sont appelées à se soumettre à leur mari, car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Éphésiens 5, versets 22 à 23. J'ai lu quelque part dans mes pérégrinations livresques qu'une femme témoigne de ne s'être jamais mariée parce qu'elle n'a jamais trouvé l'homme qui allait la dominer. Nous sommes toujours dans un contexte culturel. Nous savons par le contexte que le culte d'Artémis, j'ai partagé ça avec vous il y a 2 ou 3 dimanches, que le culte d'Artémis à Corinthe rassemblait 2000 prostituées. Et je partageais avec vous aussi, lors d'une prédication sur ces chapitres précédents, que la réputation des Corinthiens n'était pas vraiment fameuse. Nous voyons ici une focalisation plus marquée sur l'homme et la femme, plus particulièrement au couple chrétien dans l'Église. Il est vrai que même si nous avons la recommandation, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, de nous laver les pieds mutuellement, le pape l'a fait parfois, nous ne le pratiquons pas habituellement. C'est pourquoi il est évident que des aspects de ce passage ont des connotations culturelles. 3 incertitudes majeures sont à distinguer: la signification de certains termes utilisés par Paul, l'argumentation de Paul, difficile à suivre pour le lecteur moderne, et les coutumes de l'époque auxquelles Paul se réfère, juives, grecques et romaines, qui nous sont étrangères. Cependant, toute l'Écriture, dans une conversation dimanche après le culte, Léon rappelait ce verset d'un Timothée, toute l'Écriture est utile, donc il y a un enseignement à retirer pour l'Église de tous les temps. L'ordre créationnel, 1 Timothée 2, les versets 8 à 14, qui est encore plus marqué que dans notre section d'1 Corinthiens 11. 1 Timothée 2, 8 à 14, sur l'attitude des hommes et des femmes dans la communauté. Verset 8. « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. » Qu'elle ne se pare pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission, et je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, et qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au commandement de Dieu, même si Adam a aussi cédé. Il est plus intéressant de voir les différences en notions de fonction plutôt qu'en termes de hiérarchie. Dans l'ordre issu de la chute aussi, il y a une différenciation des rôles. Ce n'est pas culturel, mais bien créationnel. Dans la société grecque, les femmes sont reléguées au second plan, et certains ne les utilisent que comme prostituées. L'Évangile leur apporte de la dignité et de l'honneur dont elles abusent apparemment quelquefois dans l'Église, ce qui suscite la question posé à l'apôtre. Ça ne vient pas de nulle part. Et Paul y répond en montrant que l'homme et la femme n'ont pas la même fonction. Si Christ ne s'était pas soumis à la volonté de Dieu, la rédemption de l'humanité aurait été impossible. Ceux qui ne se soumettent pas à Christ comme sauveur restent éternellement et irrévocablement perdu. Si les femmes ne se soumettent pas aux hommes, la famille et la société sont troublées, voire détruites. Regardons autour de nous. Que ce soit à l'échelle divine ou à l'échelle humaine, la subordination et l'autorité sont des éléments indispensables de l'ordre et du plan de Dieu. John MacArthur. Je me trouvais parfois dans une situation paradoxale sur la route et même en ville lorsque je me rendais à 4h30 du matin au bureau, ici, à Pacheco, pour repartir en perquisition. Je m'arrêtais presque au feu vert même, ou du moins je les passais lentement, parce que la nuit, certains ne respectent rien, et une collision violente aurait pu intervenir. Remarquez que malgré les mauvais comportements, en journée même, la circulation reste possible parce qu'il y a un large respect du feu rouge. Ce n'est qu'un exemple de règles à suivre, mais ça nous aide parfois à voir un peu la réalité des choses. Croyant ou non croyant, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », Matthieu 28, 18, et nous connaissons bien ces versets de Philippiens 2, 10 et 11, qu'un jour il faudra qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ceux qui se soumettent de bon cœur forment l'Église. Ceux qui refusent de le faire constituent le monde. Hommes et femmes sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas de différence de valeur entre l'homme et la femme. Ils sont au même niveau devant Dieu. Être une femme ne vaut pas mieux qu'être un homme, et être un homme ne vaut pas mieux qu'être une femme. C'est vrai que ce principe d'égalité de valeur n'a pas toujours été respecté dans l'histoire et qu'il n'est pas pleinement respecté aujourd'hui dans toutes les cultures. Regardez, je ne sais pas, les faits divers, mais écoutez la radio, regardez la télévision. Aujourd'hui même, on parle de féminicide. Ça reste un homicide, mais on veut accentuer le fait sur la femme qui est souffrante ou blessée ou tuée même par un mari violent et dominateur. Là aussi, nous constatons les conséquences désastreuses de la chute qui a corrompu même les relations entre l'homme et la femme. Toutefois, l'homme et la femme sont différents. Une différence physique, biologique, indéniable. C'est pourquoi, sans rejeter le fait qu'il peut exister des cas plutôt rares d'anomalies génétiques ou hormonales qui perturbent la personnalité de certains individus, et un avocat fiscaliste bien connu, que j'ai rencontré une fois, a changé de sexe. Il est devenu une femme. C'était assez perturbant de voir cela pour un homme qui enseignait à l'ULB, qui a un grand cabinet d'avocats fiscalistes à Bruxelles, à Genève, Luxembourg, et qui a fait cette espèce de coming out. Voilà, il est décédé il y a une semaine et demie, je crois. Les personnes transgenres ont cherché à modifier leur corps, ce n'était pas son cas, pas jusque-là, mais pour correspondre à ce qu'elles pensent être leur nouveau genre. Et il est vrai que certains peuvent connaître ces perturbations, mais ce n'est pas ce qu'on essaye de nous faire croire, que même des jeunes enfants pourraient choisir leur option de genre. Quel esprit tordu du monde et de Satan veut insuffler ce genre de réflexion. En faisant cela, elles reconnaissent bien qu'être homme ou femme implique des caractéristiques physiques, biologiques, spécifiques. Ces spécificités s'accompagnent d'ailleurs de différences de caractère, de tempérament, de personnalité. Chaque culture et chaque époque marquent d'ailleurs aussi pour partie ce qui est généralement accepté comme définissant dans l'apparence ou le rôle sociétal ce qui fait un homme ou une femme, et pour reprendre un slogan d'un sport viril très populaire aux États-Unis, « Football, le football américain, makes men ». Le football fait l'homme. Alors c'est plus viril que ça, vous pouvez aller voir ailleurs, mais vous ne trouverez pas. Dans notre passage de 1 Corinthiens 11, Paul parle ici du port du voile par les femmes dans le cadre d'un rassemblement chrétien comme d'un élément culturel de l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas où sont vos voiles, mesdames, j'en vois rarement. Les femmes à Corinthe au 1er siècle avaient la coutume de porter un voile, et le fait de ne pas le porter, ou le fait pour les hommes de porter un voile, communiquait quelque chose de faux sur leur genre et leur rôle. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails, mais ce que j'aimerais que nous voyions ici, c'est comment Paul base ce qu'il dit sur ces différences de rôle et de genre qui doivent être maintenues entre l'homme et la femme. Selon la coutume de l'époque, ne pas respecter ce qui se faisait par rapport au voile remettait en cause ces différences de genre et de rôle. Et en ce qui concerne la femme à Corinthe, une femme non voilée était une prostituée. Et dans les cas extrêmes, elle avait même la tête tondue ou rasée. Théologien Campbell Morgan dit cela. Les chrétiennes de Corinthe se disaient sans doute, puisque tout est permis, pourquoi nous conformer à la coutume de porter un voile ? Et Paul répond, vous oubliez que vous êtes à Corinthe. Sans voile, vous portez le signe distinctif de la prostitution. Vous déshonorez votre mari et vous déshonorez votre chef. La femme doit avoir la tête couverte à cause des anges. On se préoccupe assez peu des anges. On ne les voit pas. Cette phrase étonnante peut être difficile à comprendre. Et en la méditant, on peut penser à Hébreux 1, 14 qui dit des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans la vision d'Ésaïe, un des séraphins est envoyé vers le prophète pour le purifier. À cause de ces anges, représentants de l'ordre et de l'autorité, les sœurs de l'Église de Corinthe se doivent d'avoir une tenue décente qui tranche avec la corruption ambiante. Je peux cependant, dans notre texte, que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Paul met dans notre passage ces différences de rôle, et pour le dire rapidement, en ce qui concerne l'homme qui ne doit pas avoir la tête couverte, Pierre n'a pas mis sa casquette. Pour le dire rapidement, les rabbins croyaient que Moïse, en portant un voile, obéissait à un ordre de Dieu. Et ceci afin de dérober aux yeux du peuple la gloire dont il resplendissait. Paul fait remarquer que ce n'était pas à cause de la gloire elle-même, mais bien plutôt à cause de son caractère passager. Moïse voulait éviter que le peuple ne la vît pâlir. C'est ainsi qu'une fausse interprétation a rendu le port du voile obligatoire pour les maîtres et les rabbins. Le voile n'est donc plus nécessaire à celui qui est en Christ, qu'il parle à Dieu en priant aux hommes ou qu'il prophétise. Voilà comment l'homme est le chef de la femme. Il s'agit ici d'une autorité bienveillante. Un concept difficile à imaginer dans la culture actuelle. Et je reviens au propos de John MacArthur qui dit qu'aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, c'est une véritable bataille qui se livre entre les hommes et les femmes. Il s'agit ici d'une autorité bienveillante. Il faut penser à l'homme comme chef de la femme de la même manière que Jésus est le chef, le leader, le serviteur de l'Église. Paul met en avant une structure d'autorité, de responsabilité, une structure que l'on voit établie dans Genèse, chapitre 1 et 2, et Paul se base d'ailleurs sur ces chapitres, surtout dans les versets 7 à 9, pour montrer que c'est la base de cette structure d'autorité où Dieu a donné à l'homme la responsabilité première de gérer la création. Un rôle de protection, d'initiative, de leadership bienveillant. Cette différence de rôle n'est pas une différence de valeur. La femme est indispensable pour que l'homme accomplisse cette mission. Ne dit-on pas que dans tout serviteur de Dieu, il y a une femme qui suit le Seigneur ? Et qu'ils sont ensemble sous l'autorité de Christ. Mais il y a une différence de rôle qui est réelle et qui doit être maintenue. On voit ça lorsque le Nouveau Testament explique les rôles différents qui existent entre l'homme et la femme au sein de l'Église et au sein de la famille. C'est pourquoi nous croyons dans cette Église, par exemple, aussi que le rôle d'enseignant, d'ancien ou de pasteur est réservé aux hommes. Il ne s'agit pas d'une différence de valeur, mais d'une différence de rôle que nous sommes appelés à assumer. C'est cohérent avec ce que nous voyons en Genèse 1 et 2, avec ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 11, et avec ce que nous voyons dans le reste du Nouveau Testament. Le premier principe est donc une différence de rôle qui doit être maintenue. Et dans le deuxième principe que Paul veut mettre en avant, est ici une différence de genre. Paul dit au verset 6 que pour une femme, de ne pas porter de voile, c'est comme si elle était rasée. Vous savez, les femmes qui ont eu des relations avec des Allemands pendant l'occupation, certaines ont été, après la libération, ont été rasées. Dans ce qu'on appelle les années folles, on a vu les femmes porter des coiffures que l'on appelait à la garçonne, une façon de s'émanciper, mais ça n'est pas nouveau dans le monde. Paul dit que ce n'est pas correct. Cela m'amène à croire que l'enjeu à la surface ici est culturel. Mais une femme qui ne portait pas de voile à Corinthe à l'époque communiquait quelque chose par rapport à son genre qui n'était pas correct. Le souci pour Paul, le principe de base, et de respecter les différences de genre. Les femmes doivent ressembler à des femmes et les hommes doivent ressembler à des hommes. Et je tombe presque de ma chaise quand j'ouvre parfois un supplément mode du Vif L'Express où je vois des photos et je dis qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un garçon ou c'est une femme ? Ça en devient même étrange. Il ne faut pas gommer ces différences. Je peux mentionner ici que dans certains milieux évangéliques où les femmes avaient en réunion de l'Église la tête couverte, cela pouvait devenir un concours du plus grand et du plus beau chapeau. Je connais un exemple, mais le but est totalement manqué et c'est à côté de la question véritable dont parle ici l'apôtre. Nous voyons cela aussi dans les versets un peu plus loin, les 13 à 15 de 1 Corinthiens 11, où Paul écrit, n'est-ce pas, quand il parle qu'il est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter ? Alors, est-ce que c'est la chevelure qui est véritablement le voile ? On voit dans la Bible des exemples aussi pour les hommes, de Samson, d'Absalom et d'autres hommes qui avaient des cheveux longs. Les Naziréens qui faisaient dans la culture juive des vœux spécifiques portaient les cheveux longs. Mais les cheveux longs pour les hommes sont plutôt associés à la culture grecque ou romaine, et donc ici c'est un élément culturel pour Paul. À l'époque où il écrit cela, c'était quelque chose que seules les femmes faisaient, et pour un homme, de faire cela n'était pas approprié. Kevin DeYoung, un théologien chrétien, dit par rapport à ce verset, quand Paul dit que la, je cite, « Quand Paul dit que la nature elle-même enseigne que les cheveux longs sont une honte pour l'homme, il ne fait pas une déclaration universelle sur la longueur des cheveux, mais il fait deux déclarations universelles sur le genre. » Premièrement, il affirme qu'il n'est pas juste que les hommes ressemblent à des femmes. Deuxièmement, il dit que ce à quoi cela ressemble sera déterminé d'une certaine manière par la culture. L'expression de la masculinité ou de la féminité va varier en fonction de la culture. Par exemple, dans la plupart des cultures, un homme qui porte une jupe, c'est bizarre. Mais en Écosse, si un homme porte un kilt, c'est masculin, normal. La manière de vivre ces différences va varier et ce n'est pas figé. Mais le souci de Paul ici est le souci que nous devrions avoir en tant que chrétiens et que cette différence soit maintenue et qu'elle existe parmi nous. Donc, égaux, différents. Et enfin, l'homme et la femme sont complémentaires. C'est intéressant de voir que dans ce chapitre 11 d'1 Corinthiens, Paul écrit au verset 12 une remarque qui ne concerne pas directement le port du voile, mais qu'il nous enseigne quelque chose de très profond. Il dit « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. » Paul veut s'assurer de ne pas être mal compris. Il ne cherche pas à élever l'homme au-dessus de la femme, ni à faire une différence de valeur entre eux. Il souligne que nous avons besoin les uns des autres. Les deux sont indispensables pour accomplir le plan de Dieu. Hommes et femmes sont différents, mais complémentaires précisément parce qu'ils sont différents. On voit cela aussi dans Genèse, au chapitre 2, lorsque Dieu dit à propos de l'homme, « Je lui ferai une aide » qui sera son vis-à-vis. Cette aide, c'est la femme que Dieu crée juste après le mot « aide », n'a rien de négatif. Il est utilisé dans la Bible pour parler de Dieu qui vient en aide à son peuple. Il n'y a donc aucune notion d'infériorité ou de moindre valeur. Ce terme fait plutôt référence au rôle indispensable de la femme qui œuvre aux côtés de l'homme pour accomplir ensemble la tâche que Dieu leur a confiée. Et c'est important pour les couples chrétiens, jeunes comme moins jeunes. L'Église et la société ne pourraient pas fonctionner uniquement avec des hommes ou uniquement avec des femmes. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin que chacun vive pleinement ce qu'il est, soit homme, chaque femme, pour le bien de l'Église et de la société. La crise identitaire actuelle est un appel urgent à redécouvrir ce que cela signifie pour un homme d'être un homme et pour une femme d'être une femme. Christ a autorité sur l'humanité. Le mari a autorité sur sa femme, autorité bienveillante. Et Dieu a autorité sur Christ. Nous avons donc un homme et une femme égaux, interdépendants, et leur relation mutuelle opère dans le cadre d'un ordre divin différencié. Éphésiens 5, verset 28, c'est peut-être ce qui va nous rappeler peut-être des choses plus pratiques et plus personnelles encore. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Hein, ça fait du bien. Mais la première partie est quand même assez difficile, surtout dans notre monde déchu et peut-être dans notre marche de sanctification chrétienne. Il y a là, au verset 32 aussi, je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. N'oublions jamais que l'autorité et la soumission reposent sur l'amour. Et j'ai voulu insérer cet aspect de l'amour, parce que finalement, dans tout ce que nous avons lu, il semble qu'il n'en est pas vraiment directement question. C'est sur l'amour que cela repose, et pas sur la contrainte. Le Père a envoyé le Fils par amour. Le Fils s'est soumis au Père par amour, et pas par contrainte. Il gouverne l'Église dans l'amour, et en retour, l'Église se soumet à lui dans l'amour. Les maris se doivent d'exercer leur autorité. On ne peut pas soustraire les mots. Leur autorité dans l'amour en fonction de la volonté aimante de Dieu. Les femmes répondent dans l'amour par la soumission pour laquelle elles ont été créées, et c'est en cela une question de charge et de responsabilité. Je cite encore là John MacArthur. Comment comprendre la présence des anges dans ce passage ? C'est pourquoi la femme doit avoir une autorité sur la tête à cause des anges. Et Florent Varac dira, on ne se représente pas facilement ce que font les anges. Ils sont surpris de la rédemption puisqu'ils connaissent par l'Église le mystère de la rédemption. C'est comme ça, et c'est difficile à comprendre en effet. Il devrait être déçu de ce qui se passe parmi les humains, et il regarde l'Église et apprenne sur Dieu. Cela présuppose la compréhension d'un grand zèle des anges gardiens de l'honneur et de la gloire de Dieu. Paul était soucieux que dans le service du culte, rien ne les offense. Et je défie ici quiconque à dire que quand ils sont entrés dans cette salle, ils ont pensé aux anges. Que rien ne les offenserait dans le culte. Dans la tradition juive, les anges étaient les gardiens de la création. Paul se prémunit du comportement de femme qui détournerait l'attention en s'affirmant libérée. Une femme doit être honorable dans sa présentation, un principe universel et culturel. L'histoire profane témoigne du fait que différents mouvements féministes ou de libération de la femme apparaissent déjà dans l'Empire romain, à l'époque du Nouveau Testament. Et souvent, les femmes rejettent le voile ou toute autre coiffure et se coupent les cheveux pour avoir l'air masculine. Il semble y avoir tant de ressemblances avec ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Mais comme on l'a vu, avec les viandes sacrifiées aux idoles, il n'y a rien dans le fait de se couvrir la tête qui soit bien ou mal. C'est la rébellion contre les rôles assignés par Dieu qui est répréhensible. Si vous gardez uniquement ce propos-là, vous avez déjà le cœur du message de notre passage. Et à Corinthe, les chrétiennes affirment cette rébellion en priant et en prophétisant la tête non couverte. Et les saints anges, on trouve ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, sont les exemples suprêmes de la soumission de toute créature. Je veux m'acheminer vers la conclusion. Matthieu 18, 10. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, Leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Cela élève au rang vraiment important où les anges et les croyants sont assemblés pour le culte et que rien ne vient détourner la gloire de Dieu. Et je pense qu'on passe souvent à côté de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce que nous sommes et cela engendre des troubles identitaires. Et je trouve parfois dans des revues, des articles qui parlent d'un mouvement de masculinisation, tant le rôle de l'homme a été malmené. Le papa poule, maternel, lissé, et ça engendre des mal-être chez certains hommes qui ne savent plus trop où ils doivent se situer, même si les pères aujourd'hui prennent plus de place dans la famille, certains avec la société qui veut avoir l'égalité entre le congé parental pour le père comme pour la mère, et ça se vit, effectivement. Dans certains commentaires chrétiens, on dit que, étant donné le rôle de l'homme et de la femme, il serait normal, et c'est contre l'orientation de notre société, que la femme mette parfois sa carrière en veilleuse ou en diminution, peut-être, pour que l'homme puisse continuer, lui, à assumer son rôle d'homme et de chef de famille, une notion qui, aujourd'hui, a disparu. Presque. C'est peut-être parce que nous avons cessé d'enseigner ce que cela signifie pour un homme d'être un homme et pour une femme d'être une femme. Je ne dis pas que nous mélangeons les genres, mais la société le fait au lieu de les garder distincts et de montrer combien ils sont tous les deux nécessaires et complémentaires. Il est vrai que nous sommes souvent enfermés, n'est-ce pas, dans des stéréotypes. Les hommes aiment le foot, les femmes font la cuisine, mais aujourd'hui, on nous sert du cyclisme féminin, du foot féminin, et il faut qu'on le boive, n'est-ce pas ? Il faut qu'on le reçoive. Mais ça n'intéresse pas autant le public. Nous devons accepter la diversité parmi les hommes et parmi les femmes, et nous devons plutôt nous concentrer sur les schémas et les principes que la Bible met en avant, en voyant comment ceux-ci se reflète différemment dans chaque culture et à chaque époque. Un auteur chrétien, Jonathan Lehman, s'exprime sur la masculinité biblique et la féminité biblique. Voici ce qu'il dit. L'essence de la masculinité biblique se manifeste par un sens de la responsabilité bienveillante envers la création de Dieu, en pourvoyant aux besoins des autres, en les protégeant et en exerçant un leadership affectueux et sacrificiel dans les contextes particuliers prescrits par la parole de Dieu. La féminité biblique se manifeste par une disposition gracieuse à cultiver la vie, à aider les autres à s'épanouir, ainsi qu'à conforter, recevoir et alimenter la force et le leadership des hommes qui en sont dignes dans les contextes particuliers prescrits par la parole de Dieu. Ce n'est pas que cette définition soit parfaite et complète, on pourrait en discuter, l'adapter, l'approfondir, mais ce qui est clair, c'est que nous devons pouvoir expliquer qu'il existe une distinction, à quoi ressemble cette distinction, et dans quelle direction elle va, et pourquoi nous avons besoin de ces différences. Et c'est aussi un rappel pour les parents, aussi dans cette Église, que Dieu vous a confié la responsabilité d'éduquer vos enfants sur ces sujets. Il est facile de craindre la vague antichrétienne qui se lève autour de nous, dans la société, dans les écoles, mais cela devrait renforcer la responsabilité que Dieu vous donne de fournir à vos enfants les réponses que la Bible offre sur ces sujets si importants. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions, mais nous pouvons avancer chacun de nous en tant qu'homme ou en tant que femme pour la gloire de Dieu, et nous tenons dans la Bible l'essentiel de ce que nous devons savoir. C'est aussi le temps de comprendre que nous sommes par nous-mêmes bien insuffisants pour mettre seuls en œuvre ce projet d'amour, que ce soit en tant que mari, en tant qu'épouse, mais aussi simplement en tant qu'homme ou femme, dans ce temps que Dieu nous donne sur cette terre pour glorifier Dieu par notre attitude dans l'Église et au dehors. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette belle tâche au milieu de toutes nos activités et nos responsabilités.